franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, les déplacements de la mouche drosophile avec le chercheur Bassem Hassan.
Ce que les mouches adorent, pour des raisons qu'on ne comprend pas vraiment.
Oui, elle adore quoi,
trop,
la mouche?
Le contraste. Donc, noir sur blanc. Ah, pour eux, c'est super.
C'est vrai.
Donc, ce qu'on met tout simplement, c'est une ligne noire sur une papier blanche. Et la mouche va vers les lignes noires sur papier blanche.
D'accord, bon, passionnant.
Oui, il adore les... Donc, mais comme nous, en fait, ils ont capacité de fixer sur un objet. Donc, et on appelle ça « object fixation », fixation d'objet,
ouais. Hein,
tout simplement. On fait tout ça. Hein. C'est un réflexe inné caractéristique de la système visuel de tous les animaux visuels.
Oui.
Mais ce qu'on a trouvé en faisant ces comportements, ces études-là, c'est que certaines mouches, chaque mouche a son propre paramètre d'aller vers un objet fixe qui est loin. Donc il y a des mouches qui marchent directement sans arrêt, ligne droite, etc.
Hein.
Il y a des mouches qui zigzaguent, il y a des mouches qui prennent toujours un peu à droite ou à gauche, un peu comme les électeurs. il y a des mouches qui posent trop, il y a des mouches qui sont plus vides de dos, d'autres. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est en fait, après une manip qui dure 15 minutes, d'enlever ces mouches, de laisser ces mouches en tranquillité, toute seule, pour deux jours, et retester. Ce qu'on a trouvé, c'est toutes ces paramètres, presque toutes ces paramètres, sont complètement individuels. C'est-à-dire que les mouches qui posent trop, qui marchent tout droit,
vont toujours refaire la même chose.
On a testé sur 3 semaines, pas plus.
Et elles répètent à chaque fois les mêmes.
Absolument.
Le même individu répète la même action.
Exactement.
Ouais.
Et si on regarde à travers les cinquantaines de paramètres qu'on a mesurés, en fait, il y a aucun mouche qui est identique à l'autre, malgré le fait qu'on a essayé de minimaliser les différences génétiques entre ces mouches.
Mardi, crise d'éducation et Internet, l'avis de Dominique Volton.
Le cœur de la bataille d'Internet au niveau mondial, c'est l'école. Il y a une crise de l'éducation partout dans le monde parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut transmettre d'une génération à l'autre. Et la solution la plus simple, c'est de dire si on fout partout des cartables électroniques, si partout on fait des plans informatiques, si partout on généralise les outils d'Internet, les réseaux, etc., on résolvera la crise de l'éducation. Non. Il faut, comme le réclament la plupart des profs dans le monde d'ailleurs, admettre évidemment de l'ordinateur à l'école, comme on admet un peu la radio, comme on admet un peu la télévision et la presse écrite et le livre. Mais l'essentiel de la culture et de l'accès à la connaissance ne passe pas par l'usage de ces tuyaux, mais passe par la capacité à former un esprit critique et c'est là où c'est merveilleux chez l'homme, c'est que la formation d'esprit critique, il passe par un transfert et un contre-transfert entre des élèves et des profs, bons élèves ou mauvais profs, on s'en fiche, mais que la technique peut apporter quelque chose à condition qu'elle reste à sa place. Et tout le problème du XXIe siècle sera d'échapper à l'illusion de croire qu'on aurait enfin un homme omniscient, parce qu'il pourrait passer 24-24. C'est formidable, Internet, vous accédez à tout, vous savez tout de suite. Oui, à condition d'avoir la culture pour le décoder, de savoir quelles questions poser et de savoir quoi en faire. Donc on revient à la question de base, c'est de construire la connaissance, la culture de l'individu. Du citoyen, de l'individu d'abord et du citoyen ensuite, et qu'il soit critique de grâce. Soyons critiques,
mais
c'est la manière
d'être. Il y a très beaux exemples, et en ce moment même d'ailleurs, dans l'actualité, il y a une jeune fille qui a piégé le président européen Juncker dans une interview sur YouTube, et on en parle beaucoup. Mais c'est formidable, parce que justement on voit que la nouvelle génération qui utilise ces outils est capable de se défendre par rapport à ces grands groupes, et d'avoir un esprit critique aussi.
Mais vous savez, les mêmes qui sont hyper branchés aujourd'hui, moi je pense que ce sont les premiers qui seront à se débrancher, parce que du point de vue de la traçabilité, du point de vue de la liberté privée, du point de vue de la concentration du pouvoir, ça pose des questions gigantesques. Pour l'instant, tout le monde est dans le plaisir de découvrir tout ça, mais moi je pense qu'une génération va, pour préserver la liberté, préserver l'altérité, avoir un autre rapport à l'expérience, au temps, à la nature, à la matière. Là, on passe des heures et des heures les uns les autres devant un écran sans bouger. Donc c'est de la folie, il faut bien retrouver l'épaisseur du temps, l'épaisseur de l'expérience, l'épaisseur de la matière, de la nature, et du coup, les gens se débrancheront, et le progrès dans moins de 20 ans sera d'être débranché.
Mercredi, lorsque les neurosciences étudient l'érection avec Serge Stoléru et Philippe Brenaud.
Je vous ai fait une petite cachotterie. Hein. Je ne vous ai pas dit qu'on a voulu avoir un témoin de la réponse des sujets. Et donc, on a utilisé ce qu'on appelle un plétismographe pénien. Ça veut dire simplement un appareil qui permet d'enregistrer la réponse érectile, avec le consentement du sujet, etc. Bien sûr, une information complète avant évidemment qu'il ne le pose. Et il est clair que les sujets répondent plus ou moins à des images érotiques sur le plan érectile.
Donc il y a des capteurs en fait, ça se passe comme ça ? C'est une sorte d'étui pénien avec des capteurs ?
Non, c'est les jauges qui sont autour du pénis et qui montrent son accroissement.
Voilà, c'est un simple, si vous voulez, comme un anneau élastique.
D'accord.
Et lorsqu'il y a érection, cet anneau est distendu. Mm-hmm. Et il y a un micro courant qui passe. Et si c'est distendu, le courant rencontre une résistance. Mm-hmm. Et donc, voilà, on peut ainsi mesurer. Et puis nous, on a perfectionné le système. C'est-à-dire qu'on a fait un système qui est non pas sensible à la circonférence, mais qui est sensible au volume. Et donc, on peut vraiment mesurer à ce moment-là le volume érectile.
Alors là, évidemment, des différences.
Alors, il y a des différences.
Voyez. Donc, ce qui est intéressant ensuite, c'est de voir ce qui se passe directement dans le cerveau, c'est ça ?
Oui, oui, oui. Il y a, si vous voulez, même des liens, ce qu'on appelle des corrélations, entre justement les réponses du cerveau aux images et l'érection. C'est-à-dire que il semble, d'après nos travaux, qu'il y a des régions qui vont, en quelque sorte, piloter l'érection.
Oui.
Hein, il y a un circuit, au fond, qui va de l'occipital, qui perçoit l'image, jusqu'au pénis, au fond, qui réagit à l'image. Et il y a, à l'inverse, des régions qui sont sensibles aux signaux qui émanent du pénis. C'est-à-dire que l'érection, quelque part, si vous voulez, est perçue par certaines régions. Donc, pour être un petit peu concret, parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle, il y a, si vous voulez, notamment dans l'hypothalamus, une région qui va piloter l'érection. L'hypothalamus contient un petit noyau, qu'on appelle le noyau paraventriculaire, qui va envoyer des signaux dans la moelle épinière, qui elle-même va envoyer, via les nerfs qui se rendent au pénis, des influx nerveux qui aboutiront au phénomène érectile.
Jeudi, espèce en voie de disparition, l'exemple d'Arenaria grandiflora, une petite fleur blanche de la forêt de Fontainebleau, avec Nathalie Machon.
C'est une petite plante qui poussait jadis en forêt de Fontainebleau, qui est beaucoup plus commune dans les montagnes.
À quoi ressemble-t-elle ?
C'est une petite fleur blanche qui fait à peu près 1 centimètre de diamètre, oui. Et la plante ressemble un peu à du thym comme forme de plante. Et donc, elle était très très rare en plaine. On la connaissait que de deux seules populations, à Fontainebleau et dans la région de Chinon. Et puis la population de Fontainebleau s'est éteinte récemment. Et avant son extinction, on a voulu faire une expérimentation pour voir combien d'individus faudrait remettre dans la nature et surtout quelle diversité génétique on devait remettre pour qu'elle se porte bien. Et on avait remarqué que les individus qui restaient à Fontainebleau étaient très apparentés et qu'ils n'étaient pas capables de produire des graines en se croisant entre eux. Et donc la réaction a été d'importer des individus de Chinon. On a multiplié
Donc vous avez fait un petit croisement génétique.
On a rapporté des individus d'ailleurs. Mmh. On les a multipliés dans des petits tubes en verre des centaines de fois et on a remis 1300 individus dans la forêt de Fontainebleau. Donc un mélange d'individus d'ailleurs et d'individus locaux. Ouais. Et puis, on suit ces populations depuis ce temps-là. Alors, il y a des bonnes années et des moins bonnes années. Mais globalement, le
donc
projet a bien marché.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle plante, au fond, que vous avez créée ou pas ? Parce que là, on a affaire à un métissage.
C'est un métissage, mais est-ce qu'on dit... c'est la même espèce, donc c'est pas une nouvelle espèce.
Ouais.
C'est des nouveaux individus. Des individus comme quand dans l'espèce humaine, on se croise entre individus de régions éloignées.
Ouais. Alors cette pratique, elle a fait grincer des dents un petit peu. Hein.
Elle n'a pas été très bien perçue. Il y a des gens qui ont pensé qu'on dénaturait l'espèce locale, alors que c'est pas... Enfin, on a ramené des individus de la même espèce, mais ils ont pensé qu'on avait pollué d'une certaine manière la souche originale. Et pour certains d'entre eux, ils auraient préféré qu'on laisse s'éteindre et qu'on n'intervienne pas plutôt que de sauver cette plante dans la forêt de Fontainebleau.
Ouais, donc là, c'est toute la difficulté de mener des politiques de conservation sur les choix qu'on fait.
Ben, les choix sont pas forcément des choix scientifiques, ça peut être des choix politiques. Est-ce que c'est important de préserver Arenaria en forêt de Fontainebleau? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut accepter pour la préserver?
Pourquoi est-ce que vous vous en étiez convaincu en tous les cas?
Alors moi, il y avait deux choses. D'abord, je trouve que c'est important de préserver la biodiversité globalement à Fontainebleau. Et donc, si on laisse les espèces qui sont un peu en voie de disparition s'éteindre, ben, on arrive à une banalisation de la flore en forêt de Fontainebleau. Mmh. Et puis, à titre tout à fait personnel, je trouve intéressante de me servir de cette plante à titre expérimental pour voir comment pouvoir faire sur d'autres espèces peut-être plus importantes sur le plan écologique dans d'autres milieux. Voilà.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.